Eh bien, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour présenter le livre de Patrick Boucheron, « Conjurer la peur, 1338, Sienne ». Je ne vais pas faire durer le suspense, c'est un livre que j'ai trouvé magnifique et c'est un livre que je vous conseille de lire très très vite. C'est un enchantement, non seulement si vous allez visiter la ville de Sienne, mais c'est également un livre, on en parlera tout au long de notre discussion, hein, un livre de réflexion politique. Et d'ailleurs, la première question que je m'aperçois que je n'ai pas présentée à Patrick Boucheron est agrégé d'histoire. Patrick Boucheron est professeur d'histoire médiévale à l'Université de Paris-1-Sorbonne. Il a écrit plusieurs livres, hein, une quinzaine de livres. Je ne peux pas tous les citer, mais c'est un spécialiste des villes d'Italie. Les villes d'Italie vers 1350 chez Belin 2004. Je cite entre autres, hein, « La ville médiévale, point, seuil 2011 », Léonard de Vinci, également des livres sur Machiavel, Léonard de Vinci, et ce livre dont je parlais tout à l'heure, « Conjurer la peur, Sienne, 1338 », essai sur la force politique des images, publié au Seuil, hein, vous voyez le livre là, en octobre 2013. Alors ma première question portera sur le titre. Hein. Sur le titre, pourquoi? Parce que chaque lecteur a son histoire, a son horizon. Moi, je viens de la philosophie et de l'esthétique. Donc, Conjurer la peur, la force politique des images, c'est un titre à la fois politique, hein, qui renvoie à des débats sur qu'est-ce que le pouvoir, quels sont les fondements du pouvoir, quels sont les rapports entre les artistes, les œuvres d'art et le pouvoir. Donc, moi, j'ai senti qu'on pourrait, en tant que philosophe, voir un débat avec Hobbes sur le contrat social, le Léviathan, Rousseau également sur le contrat social. Un débat philosophique. Hein, est-ce que, quand on vit en démocratie, on va voir qu'on va parler de la commune à Sienne. Hein, il y a peut-être une peur de l'ennemi qui vient, une peur des maladies, une peur de la peste, mais également une peur de l'ennemi intérieur. Hein, un ennemi intérieur qui ferait que on pourrait croire qu'un seigneur qui pourrait devenir un tyran réglerait nos problèmes de dissension entre nous. Et par le fait même, il y a toute une réflexion philosophique sur comment va-t-on passer d'un régime politique à un autre. Il y a Aristote, bien sûr, que vous citez souvent, Platon, que vous citez moins, et Platon qui a évoqué toute une histoire des régimes politiques, et notamment le fait que la démocratie peut vaciller en démagogie et ensuite entraîner un désir de tyran. Il y a une réflexion également sur la peur religieuse, hein, la peur de l'enfer, hein, peut-être également réflexion théologique donc, hein, sur cette peur des fléaux qui pourrait provenir de ce châtiment comme un châtiment de certaines culpabilités. Donc ma première question sur ce titre, Conjurer la peur, 1338, Sienne, la force politique des images.
Oui, c'est un titre à rallonge, à tiroir. Et c'est vrai que je suis heureux que vous me... Ben d'abord d'être là, bonsoir. Merci d'être là. Je suis heureux de cette question parce qu'au fond, vous me posez... Qu'est-ce que ça veut dire, le titre? Je n'en sais rien. Il y a des choses dont je suis à peu près sûr et d'autres qui, pour moi, sont moins assurées. Ce qui est à peu près normal. Au fond, ce que je sais, je l'enseigne. Je suis professeur, donc voilà, je suis habitué à exposer, si possible, clairement, les choses que je crois avoir compris. Mais ce que je ne suis pas sûr de comprendre, je l'écris. Et c'est ça, écrire, au fond, c'est confier à quelque chose qui nous dépasse et une incertitude. Alors, dans ce titre, il y a des choses que je comprends. Sienne, 1338, ça je comprends, parce que je suis historien. Et parce que ce que je veux tenter de donner à voir et de donner à comprendre aussi, c'est une forme d'événement et de brutalité de l'événement. C'est une sorte d'urgence et un état d'urgence dans lequel un peintre, Ambrogio Lorenzetti, a décidé de jeter des couleurs sur les murs d'un palais communal. Et Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'à ce moment-là, une commune italienne, on va y revenir, se sent en danger et elle croit utile, elle croit nécessaire, elle croit légitime de, d'une certaine manière, se protéger de ce danger qu'elle ne sait pas très bien nommer. Mais les images sont là pour rendre visible ce que les mots hésitent à dire. Un danger rôde, on ne sait pas d'où il vient, il est assurément politique. Nous sommes fiers de notre régime, qu'on appelle un régime communal, or il semble menacé de ce qui vient le subvertir, qui est l'autorité d'un seul, ce qu'on va appeler tyrannie, parce qu'on va utiliser un mot ancien pour désigner cette seigneurie qui vient. Et d'une certaine manière, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est, oui, rendre cette peinture politique à son état d'urgence. Ça se passe à Sienne, en 1338, je dois en faire l'histoire. Mais si je dois en faire l'histoire, c'est avec l'espoir de faire, par cette histoire, un essai sur la force politique des images. C'est le deuxième sous-titre. C'est-à-dire, au fond, si je suis historien, c'est pour me laisser gagné par des images qui me regardent depuis assez loin, depuis assez longtemps, qui viennent de loin à notre rencontre pour nous dire quelque chose aujourd'hui. Et donc la force politique des images, c'est la puissance d'actualisation d'un discours qui a été tenu il y a très longtemps par des gens dont on n'a plus aucune idée ni de leur motivation, ni de leur espérance, ni de leur chimère, et qui pourtant a encore quelque chose à nous dire. C'est une petite affaire. Sienne, 1338, va-t-elle tomber dans les mains d'un seigneur ? Oui, non. On s'y intéressera poliment si on s'intéresse à l'histoire locale. Mais c'est comme un western. C'est très local, un western. Mais ça nous intéresse dès lors, Rio Bravo, bon, ok. Mais ça nous intéresse dès lors qu'on peut, au fond, y trouver de l'universel. Alors, quelle est la part d'universel dans cette question ? Oui, c'est la peur. Et conjurer la peur, en revanche, c'est la partie du titre que je ne m'explique pas. Je l'ai appelé « conjurer la peur » parce que je n'étais pas tout à fait sûr de ce que ça voulait dire, de même que je n'étais pas tout à fait sûr de ce que signifiait, au fond, l'image de couverture. Elle me plaisait simplement. C'est à force d'en parler publiquement et de recevoir en échange ce que les gens, me lisant ou m'écoutant, comprennent de cela, que je comprends un peu mieux qu'effectivement, sur cette couverture, il y a deux soldats, qu'ils ont l'air inquiets, qu'ils se rassurent en se rapprochant et que l'un d'évidence croit que le danger viendra d'en haut, que ça va nous tomber sur la tête, que c'est quelque chose d'autre qui vient. Et alors on va dire, nous vivons tranquillement en République, mais la tyrannie va nous tomber dessus. Et il y en a un peut-être plus lucide qui regarde sur le côté, parce qu'il sait évidemment que ce dont il est question en politique, c'est jamais de l'irruption brutale de l'autre, mais c'est plus sourdement, plus sournoisement, ce qui vient de côté, c'est-à-dire ce que, au fond, nous sommes en train de construire sans le savoir.
On va donc revenir sur les images. Vous avez évoqué l'image de couverture avec ces deux soldats. Donc, on va revenir à ce peintre, Ambrogio Lorenzetti, qui est le peintre lettré, le peintre savant par rapport à son frère, Pietro, qui était au fond, l'inventeur, peut-être un perspecteur plus doué finalement que son frère, mais Ambrogio est le peintre lettré, le peintre savant que Vasari et beaucoup d'autres vont citer. Et je crois que c'est important que vous rappeliez l'histoire de cette commande, donc par les neufs. On reparlera des neufs à plusieurs reprises. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent la ville de Sienne, Sienne-Florence. Donc la ville de Sienne est vraiment une ville tout à fait typique avec cette place Campo qui est en éventail. Vous évoquez également la conque pour le décrire avec les neuf parties qui sont délimitées par de la pierre grise qui délimite les neuf parties en briques. Donc il y a vraiment une importance du neuf sur laquelle on reviendra souvent. Mais je crois que c'est important que vous situiez le lieu de cette fresque, avec ces trois murs, avec cette allégorie, avec le bon gouvernement, le mauvais gouvernement, ses effets, avec le mur qui également s'ouvre par une fenêtre sur la perspective du contado, la perspective du paysage, que verra tout à l'heure cette paix mélancolique, hein, que vous trouvez maintenant mélancolique depuis Skinner, hein, on y reviendra également. Donc voilà, donc, on est dans cette pièce, on trouve ces peintures, ces fresques qui nous entourent. Vous évoquez Daniel Arras également, hein, étouffante. On est en quelque sorte pris en immersion dans ces images. On voit bien qu'il y a une force importante de ces images. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser, décrire cette commande, cette réalisation par Ambrogio Lorenzetti?
Décrire la commande, je ne peux pas vraiment le faire. Je ne peux pas assurément en dire l'histoire. Je peux la reconstituer tant il est vrai que l'histoire, la discipline, est une science indiciaire. Quels sont les indices? Entre le début de l'année 1338 et la fin, et février 1339, les paiements s'échelonnent régulièrement au palais communal. Et donc, on en conclut sans qu'il y ait la commande. Je n'ai pas de contrat. Je n'ai pas de motivation du régime commanditaire. C'est neuf magistrats de la commune qui effectivement gouvernent depuis 1287, longévité extraordinaire dans cette Italie politiquement ballottée depuis 1287, nous sommes en 1338, régime stable, alors que tout branle autour, alors que la seigneurie presse, on est encore dans une commune et on bande tous les efforts culturels pour par ce palais, par la tour, par la propagande, d'une certaine manière, rassembler les forces. Alors, ces forces, elles sont artistiques et Ambrogio Lorenzetti est un des peintres de confiance du régime des Neufs. Et les paiements s'échelonnent entre janvier 1338 et février 1339. Il a peint ceci. Et il le dit en lettres solennelles et latines. Il y a marqué sur le mur nord, le petit mur des allégories, je vais le décrire dans un instant, Ambrogio Lorenzetti, peintre de Sienne, a peint ceci, utrinque, de part et d'autre. Car ce petit mur est au nord, il fait 7 mètres, et les deux grandes parois qui font face, est, ouest, 14 mètres, les flanquent. Trois murs peints sur quatre côtés. Qu'est-ce que ça représente? Première source, premier témoignage direct sur ce que je pourrais appeler l'œil du Trecento. Comment on a vu cette fresque? Quel titre on lui donnait? Une chronique modeste d'un Italien qui, d'évidence, annonce sa langue, n'est pas un professionnel de l'écrit, probablement un artisan. Nous sommes dans une ville qui est intensément scolarisée, comme Florence. Dans ces années 1330, on peut estimer qu'un tiers d'une classe d'âge masculine a été à l'école. Et ce Siennois, probablement un artisan, qui écrit sans en faire son métier, écrit ceci. Nous sommes dans les années 1350. À Sienne, dans le palais communal, Ambrogio Lorenzetti a peint la paix et la guerre. Tiens, ce que nous appelons la fresque du bon gouvernement s'appelait à ce moment-là la paix et la guerre. Et il l'a peint dans le palais communal, au deuxième étage, à gauche, en sortant de l'escalier, et qui y va peut la voir. Dernière notation d'une importance capitale, et qui y va peut la voir. C'est une œuvre publique qui a été publiquement commandée pour donner à voir la paix et la guerre. Les historiens de la philosophie politique auxquels vous faisiez allusion, qui veulent voir Aristote, qui veulent voir Cicéron, sont obsédés par le petit mur nord des allégories, qui présente les principes du bon gouvernement. Et c'est pour ça que nous l'appelons le bon gouvernement, la paix, la justice, le juge vénérable, la magnanimité, la tempérance, etc. Mais ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas ça qu'on voit au XIVe siècle. Ce qu'on voit, c'est les deux grands parois, à l'est et à l'ouest, qui déploient les effets de ce bon gouvernement sur le Condado, les campagnes, et sur la ville, et les effets du mauvais gouvernement dont la réplique des principes est située à gauche, sur la part funeste, sur le Condado et sur la ville. Et déjà, le fait que la première notation du XIVe siècle donne à voir, donne à comprendre cette fresque comme la fresque de la paix et de la guerre, et pas comme la fresque du bon gouvernement, comme nous autres, depuis le XIXe siècle, la voyons, nous donne à comprendre quelque chose d'essentiel, qui est que ce que la portée politique de cette peinture consiste à dire ceci: si vous cherchez le bon gouvernement, ne le cherchez pas nécessairement chez des hommes vertueux ou bien inspirés ou bien légitimés. Ce n'est pas un discours de justification qui est ici adressé. Ce n'est même pas un discours des origines. Qu'est-ce que fait un régime en danger? Il rappelle la noblesse de ses origines. Non, ici, ce qui se dit, c'est simplement ceci: le bon gouvernement, c'est celui qui, sur vous, sur chacun d'entre vous, ici, maintenant, a des effets bénéfiques.
Oui, on reviendra tout à l'heure sur cette idée de bien commun, liée peut-être au lieu commun, ce lieu commun que les neufs, c'est-à-dire les dirigeants de la cité de Sienne, vont mettre en évidence hein, sur la place, hein, cette place qui est une place, on l'a dit tout à l'heure, divisée en 9 parties en éventail. Mais vous évoquez d'une manière, comment dirais-je, d'esthéticien, donc là peut-être la proximité avec Daniel Arras, et cette double formation que vous avez d'historien, d'historien de l'art, d'historien des idées, de l'économie, de la philosophie politique et des images. Et là je trouve que c'est vraiment de passionnant aussi dans votre lecture, c'est qu'au fond vous partez du pouvoir des images, de l'éloquence des images elles-mêmes. Et pour en témoigner, ben, vous faites appel à celui sur lequel Daniel Arras avait voulu faire sa thèse, une thèse qui a été perdue, qui est Bernardin de Sienne. Et je pense que c'est important que... Enfin, ce serait intéressant que vous évoquiez ces sermons. Hein. Il faut imaginer les hommes, les théologiens de l'époque qui, au fond, vont sur la place d'une ville et qui vont, peut-être pas haranguer la foule, hein, mais qui vont parler, en tout cas, aux fidèles pour leur parler du bien, des péchés, de la vie à venir, et qui citent beaucoup d'images, et notamment les effets... de la paix et de la guerre de Lorenzetti.
Oui, c'est une bonne idée de partir du discours de Bernardin de Sienne. C'est le premier chapitre, en fait, du livre. Et c'est une bonne idée parce que, d'une certaine manière, c'est un discours sur les images, mais les images au sens anthropologique, puisque voilà un prédicateur qui va se planter au milieu donc, de la place du Campo, qui est cette magnifique et scénographique place civique qui vient se lever au creux des collines siennoises, et qui fait de l'ensemble de l'espace public qui l'environne une sorte d'écrin majestueux et théâtral, surtout c'est la conque ou c'est l'orchestra du théâtre grec. Il se plante là, le prédicateur, devant ses ouailles. Il est dos au palais. Nous parlons évidemment de fresques qui sont accessibles au palais. Qui y va peut la voir, mais pour l'instant, on ne la voit pas. Et il va s'adresser donc à l'aveugle, donc ce que je fais aujourd'hui, hein, à des gens en tenant à ces orateurs, en partant du principe qu'ils se souviennent des images dont ils vont parler, qu'ils l'ont dans l'œil. Donc, c'est l'image au sens anthropologique, c'est l'impression visuelle, c'est le souvenir rétinien. Et il dit ceci. Tandis que je prêchais, il y a bien des années, la paix et la guerre loin de Sienne me revenaient en mémoire, et il s'agit bien de mémoire, ces images peintes pour vous, et qui, à coup sûr, furent une belle invention. On y voit d'un côté la paix, je cite de mémoire, on y voit d'un côté la paix, et dans cette cité affairée, on travaille, on danse, on va au bain, chacun est à sa place, chacun peut mener librement sa vie, tandis que de l'autre côté, on ne pense qu'à se battre, tout est en ruine, les maisons sont en flammes et il y a une femme qui tient un gibet. Tiens, ça c'est intéressant, c'est un tout petit détail. La plupart des visiteurs ne le voient pas. C'est la Securitas, c'est-à-dire cette allégorie Securitas, c'est moche, disons la sûreté. La sûreté au sens philosophique, c'est-à-dire cette liberté d'aller et venir qui garantit toutes les libertés publiques et que les citoyens doivent défendre, y compris contre l'État. Parce que l'État n'a qu'une seule, mais ardente, nécessité, c'est de défendre cette liberté de circulation, d'échange des corps parlants. Et le bon gouvernement, c'est simplement celui où on circule. Mais la Securitas, elle tient un petit pendu, un échafaud dans sa main, et qui dit attention, cette justice, qui est la justice communale, elle sera impitoyable avec les méchants. Donc, ce discours de Bernard Ancienne, qui dit ici la paix, là la guerre, il m'intéresse pour trois raisons. La première, c'est parce que, justement, il écarte les dichotomies, la paix, la guerre. Il est d'une certaine manière, il dit une décision politique. Quand tout devient, au fond, incertain, quand les régimes s'hybrident, quand on ne sait plus trop ce que c'est que la paix, la guerre, la seigneurie, la commune, alors il y a une nécessité d'écarter les antithèses, de peindre utrinque, ici et là, d'un côté et de l'autre. Et voilà, c'est ce geste de décision, je tranche, ici et là. Il m'intéresse aussi parce que, c'est désagréable. Il dit tournez la tête, vous allez voir, on tourne. C'est comme s'il nous mettait en demeure de nous rendre compte de la portée des actes. Or, je ne sais pas, quand on rentre dans un ministère ou dans le siège social d'une entreprise, tout n'est que luxe, calme et volupté. Tout est là pour flatter, pour rassurer. Cette peinture est extraordinairement désagréable. Elle ne cesse d'engueuler, au sens propre, celui qui la regarde. Tourner la tête, parce qu'il y a des écritures peintes, tourner la tête pour regarder vous qui gouvernez, celle qui est peinte ici, là, d'un côté, de l'autre. Tourner la tête, d'abord, ça demande un effort. Et ça demande, au fond, un engagement physique. C'est une peinture qui ne cesse d'alerter, mais aussi d'exhorter ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. La troisième chose qui m'intéresse, c'est que ce discours que Bernard Ancienne adresse à l'aveugle, à des gens qui ne voient pas l'image, mais dont il imagine qu'ils l'ont à l'esprit, c'est en 1427 qu'il l'adresse, presque un siècle après, à un moment où le régime que Lorenzetti avait pour mission de défendre est tombé, il est tombé en 1355, donc d'une certaine manière, s'il ne s'agissait que de justifier un régime commanditaire, le message il est périmé, et pourtant, quelle énergie. Et justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est quelle est la puissance d'actualisation de cette image très conjoncturelle, Sienne 1338, mais le contraire, en somme, de ces affiches électorales qui, une fois l'échéance passée, ben on les arrache, c'est terminé, elles n'ont plus rien à nous dire. Elles avaient encore quelque chose à dire à Bernard Ancienne en 1427, alors que lui vivait dans un tout autre régime politique, c'est-à-dire que Sienne était dans l'état des Médicis, le combat politique de Lorenzetti était perdu. Et pourtant, il y avait encore quelque chose, d'une certaine manière, qu'il appelait et qu'il relançait devant ses éditeurs. Et ça, c'est la force politique des images.
On reviendra tout à l'heure sur cette survivance des images avec Warburg, hein, que vous citez également. Mais pour l'instant, j'aimerais revenir sur cette scénographie. Hein. On a bien compris cette fresque de Lorenzetti qui s'étend sur trois murs. Donc le mur nord, on a les grandes allégories. Le mur ouest, on a la guerre, hein, et le mur est, on a donc la paix. Donc on imagine toutes ces personnes qui, au Trecento, vont dans leur palais communal voir ces images, s'imprégner de ces images, parce que beaucoup, j'imagine, voient les images, mais ne savent pas lire, ne savent pas écrire, peut-être. Donc, les images sont vraiment prépondérantes. Hein. Et en fin d'intervention, je vous poserai des questions sur l'actualité, peut-être sur conjurer les peurs actuellement. Donc, on a cette scénographie. Et dans cette scénographie, qui est tout à fait admirable, il y a beaucoup, beaucoup de personnages hein, que vous évoquez, en disant qu'ils ont tous à peu près la même taille, que souvent il y a une corde, peut-être la concorde, hein, qui va les lier d'une manière assez sinueuse, non pas droite, mais sinueuse, pour évoquer justement cette diversité des personnes. Et puis on sait très bien que malheureusement, cette commune va finir, mal finir, il y aura la peste, puis il y aura la seigneurie qui va prendre le dessus. Alors, je pensais en vous lisant, hein, donc ce livre encore une fois m'a passionné, je pensais à la critique que Platon, qui vient quelques années après, plus tard, les Panathénées de Phidias, hein, Phidias, le grand sculpteur de la démocratie du régime de Périclès, on pourrait faire une petite comparaison avec le fond en gouvernement démocratique, hein, et puis ça tourne mal pour la démocratie athénienne avec ce grand symbole de toutes ces personnes, cette frise avec ces personnes qui ont toute la même hauteur, hein, comme les dieux assis également sont à la même dimension. Et puis Platon qui viendra un petit peu plus tard en disant, ben voyez, si ça a mal tourné votre démocratie athénienne, si vous êtes fait battre par Sparte lors de la guerre du Péloponnèse, c'est parce que vous avez été influencé par ces images pernicieuses. Donc ici, le discours de Bernardin de Sienne est vraiment très très différent. Et j'aimerais revenir à ces neufs, hein, ces neufs qui sont donc les dirigeants de la cité, qui commandent cette fresque où on voit apparaître beaucoup de citoyens, beaucoup de maisons. Alors vous évoquez très très bien les différentes perspectives de la ville de Sienne, avec toutes ces maisons qui font du centre une place dominante. Hein. Et vous remarquez que les neufs, eux, ne sont pas représentés. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces neufs absents et présents dans la scénographie, dans la ville, dans les lieux du pouvoir, qu'ils mettent en réserve?
Oui, c'est Louis Marin qui disait que le signe est la mise en réserve de la force. La mise en réserve, ça veut dire au sens propre le fait que plus fort que la force, c'est la séduction et la mise en puissance la force. Les neufs ne se représentent pas. Ils sont présents partout par le rythme. C'est une... Tout est affaire de rythme. D'abord parce que c'est de l'architecture, et aussi parce que c'est de la peinture, et parce que, d'une certaine manière, cette architecture, elle se vit sur... Enfin, elle se conçoit sur un modèle musical. Carlo Ginzburg dit la grande différence entre... le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est que le Moyen-Âge pense l'ordre comme une harmonie, alors que la Renaissance pense l'ordre comme une symétrie. Rien n'est symétrique ici. De ce point de vue-là, on est vraiment dans une concorde, vous l'avez dit, c'est-à-dire un accord des âmes libres, individualisées. Chacun, bon, ça serait une polyphonie, quoi. Une polyphonie où chacun a sa partition à jouer. Et l'ensemble est accordé. Bon. Donc, les neufs sont dans le rythme. Neuf chanteurs, neuf vertus, neuf traits de briques qui viennent effectivement scander la place du Campo. Bon, voilà, c'est un rythme obsédant. Bon, ce rythme, c'est aussi celui 3 fois 3, de la chanson que toute chanson politique, éminemment politique, que toute l'Italie a sur les lèvres à ce moment-là, qui est la Comédie de Dante. Parce que ces trois murs, c'est aussi l'enfer, le purgatoire et le paradis. Bon. Donc, tout est affaire de rythme. Mais les neufs ne se représentent pas. Ils se représentent ceux qui ont le pouvoir, ce sont 24 conseillers. Alors, pourquoi 24? C'est compliqué, je passerai pas. Voilà, il y a différentes raisons. Enfin, en tout cas, ce n'est pas neuf, 24. Chacun, c'est très beau cette image, parce qu'ils amènent la corde au grand conseiller qui symbolise la commune. Ils amènent la corde. Ils sont accordés par la concorde, concorda, avec la corde. Et on voit que Lorenzetti fait rimer des images et des mots. Cette corde, c'est un lien qui n'entrave pas, qui libère. C'est un lien volontaire. Un lien qui est tenu assez serré, mais qui ne les empêche pas chacun d'être individualisé. Ils ont tous la même taille, parce que la Concorde tient un rabot sur ses genoux, et le rabot, il nivelle les conditions. Donc ils sont libres, des individus libres, mais nivelés. Il a fallu effectivement la puissance abrasive de l'idéologie libérale pour considérer que le nivellement était une contre-valeur politique. Pour les régimes communaux italiens, c'est une valeur positive. Ce rabot, c'est le rabot fiscal. Ils souhaitent que les conditions soient socialement nivelées. Donc, d'une certaine manière, ces neuf, oui, ils sont présents, absents dans la fresque, toujours pour cette raison que, d'une certaine manière, cette fresque, elle évoque une situation, un décor, des personnages, mais elle ne se laisse pas périmer par l'identification à ces décors, à ces situations, à ces personnages. La ville qui est représentée, c'est ressemble à Sienne. Il y a quelque chose, par exemple, de tout à fait frappant, c'est que s'il y a bien un monument que tout le monde peut reconnaître quand on est siennois, c'est la cathédrale et le campanile. D'abord, cette cathédrale et cette campanile, ils sont escamotés en haut à gauche de la... On ne peut pas vraiment faire plus marginal en haut et à gauche de la représentation. Comme si effectivement une configuration laïque de l'espace dominait, et elle ne ressemble pas à la cathédrale réelle. Donc il y a une sorte de ressemblance, dissemblance décalée, exactement comme Pétrarque disait dire qu'un fils ressemble à son père, c'est dire qu'il y a plein de différences dans ses traits, mais qui nous indique une étrange familiarité. Il y a une étrange familiarité. Mais il n'a pas voulu représenter cette ville en paix comme la ville de Sienne. Parce que ce n'est pas la ville de Sienne. C'est la ville de Sienne qui fait un effort. C'est la ville de Sienne qui est bien gouvernée. Et c'est ça qui est... Moi, c'est ça que je trouve touchant. C'est que quand on regarde cette partie, cette ville, d'abord, on se souvient de quelque chose de très simple, qui est que les villes, comme corps construit, sont les plus grandes choses dont l'homme est capable. Voilà. Il n'y a pas plus grand. Fait d'homme, fait de main d'homme. Ça a fait rêver les générations d'architectes et de théoriciens de la Renaissance qui ont fait des villes idéales, mais ce n'est pas une ville idéale ici. Tout est bricolé, tout est dissymétrique, proprement dit. Rien n'est absolument ordonné. La corde n'est pas droite. Adritta corda, ça voulait dire dans l'urbanisme les façades alignées. Il n'y a pas deux façades qui sont alignées. Ça veut dire que c'est notre ville, la ville qui est bricolée, la nôtre. Elle n'est pas inatteignable. On ne nous fait pas rêver sur des mondes meilleurs. On ne nous fait pas espérer la réverbération de la Jérusalem céleste sur terre. C'est notre ville, c'est notre vie, pourvu qu'on en prenne soin. Voilà, c'est juste ça que dit Lorenzetti.
Oui, en vous écoutant, je pensais également que ces neufs sont des personnages qui finalement ressemblent à toutes ces personnes qui défilent, qui se dirigent vers le cœur de la cité. C'est des gens moyens, c'est des commerçants, c'est des artisans... Alors, ma première question, c'est comment ils sont élus, comment ils sont nommés et pour combien de temps. Et la deuxième question, on va entrer maintenant dans le détail de la peinture. Donc, dans ce détail de la peinture, on va peut-être plus entrer dans la personnalité d'Ambrogio Lorenzetti. Savoir, c'est un artiste philosophe, hein, entre un débat avec Skinner, peut-être sur savoir sa formation, sa position. Par rapport à ces différentes commandes, Lorenzetti est quelqu'un qui peut avoir un pied du côté de la tradition religieuse. Hein. Il a peint des annonciations. Donc c'est un peintre qui... il n'était pas dans un ordre religieux, Lorenzetti, aussi. Non ?
Je réponds d'abord à votre première question et j'essaie de l'articuler à votre seconde. Comment on était élu ? Qu'est-ce que représentaient ces gens ? Le système politique communal italien est incroyablement sophistiqué. Sur le papier, c'est la constitution idéale. Figurez-vous que on était élus pour 2 mois, non renouvelables. On pouvait être élu qu'une fois dans sa vie. Pendant ces 2 mois, on était enfermés dans le palais, pas de portable, pas de possibilité de communiquer avec l'extérieur, pas de possibilité donc de se faire influencer. À la fin de sa charge, on restait dans le palais avant que les vérificateurs au compte aient tout listé, et s'il y avait un problème, de toute façon, les prisons communales étaient au rez-de-chaussée, donc il n'y avait que l'escalier à descendre. Donc, sur le papier, rotation des charges, collégialité des décisions. Sur le papier, on ne voit pas comment un système... Tout était fait pour empêcher le figement oligarchique. Vous savez, comme on tourne une mayonnaise. Il faut que ça... Rotation des charges. Il faut tourner très vite. Et pourtant, ça va avoir lieu. Ça, c'est quand même sidérant. Ça veut dire, effectivement, qu'aucune constitution ne protège du dérèglement démocratique. Voilà. Ce sont des pratiques, en fait, que l'on peut mettre au travers de la tyrannie. Ce ne sont pas des constitutions. Cela fait de ce régime un régime de très forte participation politique. Attention, quand je parle de participation, vous pouvez penser à participation électorale. Non, c'est participation politique. On estime qu'il y a environ 25% des hommes, encore une fois, je suis désolé, qui ont directement participé à l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire qui ont eu des charges électives. Ça, c'est quand même important. Lorenzetti a eu des charges électives. Donc Lorenzetti est un peintre engagé. On sait qu'il a parlé au Conseil, que lorsqu'il a parlé des notaires, on retranscrit non pas ses dires, mais la teneur de ses dires, en disant qu'il avait bien parlé, etc. Donc il est éloquent. Donc effectivement, c'est un peintre religieux, bien sûr, parce que la commande est religieuse, mais elle est devenue presque minoritairement dans cette sienne des années 1330. Il succède à Simone Martini. Simone Martini est parti en Avignon, donc là, effectivement, il devient le peintre des papes. Ambrogio Lorenzetti prend sa place d'une certaine manière, et à ce moment-là, la commande publique est vraiment dominante, Alors, il y a au moins deux auteurs. Il y a celui qui peint et son atelier, mais l'atelier est d'une certaine manière désigné par ce nom collectif, Ambrogio Lorenzetti. Et puis il y a celui qui écrit ses vers en latin pour certains, mais la plupart en italien, ses 64 vers de cette chanson qui court sur les trois murs, et lui, on ne connaît pas le nom. On a donc tendance à tout attribuer à Lorenzetti, à en faire effectivement un peintre savant. Alors, je dirais avec Quentin Skinner, puisque d'une certaine manière, vous faites allusion à ce livre de Quentin Skinner, qui est un historien des idées politiques, qui a fait un livre qui s'appelle « Portrait de l'artiste en philosophe politique ». Et je dialogue beaucoup avec Skinner, enfin, dans la deuxième partie du livre, j'essaye de faire... d'emporter ça par l'écriture, de ne pas faire œuvre, disons, universitaire. Enfin, à un moment, il faut quand même que je me confronte à l'historiographie. Et ma position par rapport à ça, c'est de dire, oui, Lorenzetti est un peintre savant, mais sa science est picturale, c'est-à-dire que c'est avec les moyens propres de la peinture qu'il délivre son message et ça, c'est ce qui m'oppose parfois aux philosophes politiques, c'est que la force politique des images... Ce n'est pas les textes qu'elle illustre, c'est-à-dire que pour la verrouiller, pour la déverrouiller, hein, c'est la fameuse métaphore de la clé, ce n'est pas un texte, ce n'est pas plus Platon qu'Aristote ou Cicéron. Il n'illustre pas, précisément parce que ce n'est pas Vasari, précisément parce qu'on n'est pas encore au XVIe siècle, qu'on n'est pas encore à la Renaissance. Donc c'est la culture politique, au fond, ambiante de cette Italie communale qui, effectivement, développe des idées, et Lorenzetti en avait, mais surtout des pratiques. C'est-à-dire la pratique fiscale, la pratique édilitaire, la pratique judiciaire, Et donc j'essaye effectivement de rechercher des pratiques politiques derrière cette fresque, derrière cette peinture.
Alors Lorenzetti est à la fois, donc vous l'avez dit, un peintre religieux, un peintre politique, un peintre qui a des fonctions civiques hein, dans la cité. Et vous intéressez, donc on va rentrer dans le détail au sens vraiment de Daniel Arras, hein, dans ces deux sens, des taglio et particolare, donc un détail plastique également et pas simplement iconique. Et vous remarquez, en citant un certain nombre d'auteurs, hein, vous avez évoqué Vasari, qu'il est désigné comme un peintre qui est capable de peindre la turbulence de l'air, la fureur de la pluie. Et tout ça est mis en relation avec ce que vous appelez la stasis. La stasis que vous opposez au polémos, c'est-à-dire cette sorte de... On a peur de la guerre, on a peur de l'ennemi extérieur, mais on a peur également de cette sorte d'agitation de la cité qu'on retrouve dans les éléments du cosmos, hein, la pluie, le ciel, le tremblement de l'air. Et on sent que la vie est liée à cette agitation, à ce trouble de la cité. Et qu'en même temps, ce qui peut produire cette agitation, cette animation plutôt bénéfique de la cité, peut très vite virer en désordre, en cacophonie, et donc entraîner un désir de stase, un désir d'arrêt.
Oui, c'est. J'aimerais tellement pouvoir me libérer de l'historiographie, voir cette fresque de manière neuve, l'œil nu. Jacob Burckhardt, lorsqu'il est rentré dans dans ce palais, dans les années 1880, un moment où pas grand monde regardait cette fresque, que peu s'y intéressait. Il est rentré, il a vu ça. Ben, Jacob Burckhardt, c'est donc l'auteur de la civilisation de l'Italie de la Renaissance. Il a dit, tiens, le bouclier d'Achille. Et de fait, deux cités, une en paix, une en guerre, et des gens qui dansent autour de la cité, enfin, au cœur de la cité en paix, et surtout, une dispute originelle, fondatrice. Bon, ça ne peut pas être ça parce que Homère, à ce moment-là, n'est pas disponible. Enfin, en tout cas, l'Homère grec, où on peut lire l'ekphrasis du bouclier d'Achille. Mais bien sûr, comment ne pas voir qu'il y a justement ici représenté ce que Nicole Laureau, dans La Cité divisée, a appelé effectivement la stasis, c'est-à-dire ce conflit fiché, fondé au cœur de la cité, qui fait que... Alors après, on peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler stasis, si on lit les Grecs. On peut l'appeler mésentente, si on lit Jacques Rancière. Mais en tout cas, c'est l'idée fondamentale que la cité en paix n'est pas une cité où le consensus s'est développé universellement, mais une cité qui organise harmonieusement sa mésentente, qui dispose de manière juste et équitable ses divisions. Oui, ses divisions. Parce qu'on est dans une cité communale, parce qu'on est effectivement dans l'organisation politique de la conflictualité. Bon, si je dis ça, je ne méconnais pas non plus que je promène sur cette fresque un œil de vieux machiavélien qui savait bien, lui, mais on est presque deux siècles plus tard, que les républiques ne s'ordonnent pas sans danger, comme il l'écrit dans le discours sur la première décade de Tite-Live, c'est-à-dire, au fond, que ce qui fait la République juste n'est pas le législateur vertueux, mais la dissension civile. Cela dit, lorsqu'il écrit ça, Machiavel, il l'écrit en tant qu'il est lui-même l'héritier de toute cette histoire communale. Et c'est au fond ce que Skinner cherchait à faire. Ce que moi, même différemment, et mais plein d'autres, tente de faire aussi, c'est de ramener cette histoire communale, non pas, surtout pas, dans la généalogie de notre modernité ou de la constitution de notre liberté, mais dans notre histoire, simplement, notre histoire politique, incertaine, ambiguë. Et Dieu sait combien elle est incertaine et ambiguë, cette histoire de l'Italie communale.
À vous lire, on voit que vous avez passé beaucoup, beaucoup de temps dans ce lieu, hein, dans cette fresque, devant cette fresque, et que vous avez regardé les détails. Donc, vous avez rapidement évoqué certaines analyses que vous consacrez au rapport entre le texte, en effet, et puis les images. Donc, je rappelle que sur la Concorde, hein, c'est vraiment une analyse très, très fine, hein, inspirée peut-être aussi de Daniel Arras, de tous ses travaux sur les mots et les images. On voit bien que dans la Concorde, sur le rabot, si mes souvenirs sont bons, donc, est comme gravé, hein, le lettre Concordia. Donc, tandis que d'autres figures emblématiques sont soulignées d'une manière, oui, beaucoup plus visible. Alors, pour entrer dans les détails, on voit bien que finalement, ce bon gouvernement, ce mauvais gouvernement, donc la paix, la guerre, on va mettre en avant le bon gouvernement ou les effets. Et les effets, c'est la paix. Et là, vous qui avez regardé longtemps ces images, vous changez d'avis. Et vous trouvez que cette paix, au fond, a une attitude qui est évidente. Hein, c'est comme la lettre volée, peut-être elle était là. Elle est mélancolique, elle est en position de mélancolique. Un petit peu comme si la commune qui confiait, enfin les neufs de la commune qui confiait à Lorenzetti cette fresque, savaient que ça ne durerait pas toujours. Que peut-être il y aurait la peste, mais peut-être aussi un désir du popolo, un désir du peuple, d'avoir un homme providentiel, d'avoir un chef, hein, quand ça va mal, quand il y a la dette qui ruine les grandes familles, quand même, on est en situation de dette, on se dit, comme aujourd'hui, ça va mal, est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui soit un homme vigoureux pour peut-être sauver la cité du désordre ?
Oui, bien sûr. C'est bien ça le problème. Vous dites que je l'ai regardé longtemps, je l'ai regardé souvent. C'est un peu différent, souvent, rapidement. C'est un ami historien de l'art, Gérard Labrou, qu'un jour on était en Italie, on était à Prato, et il me dit on va voir un musée. Et je lui dis ok, je te suis. Et il cavalait. Je dis, tiens, c'est ça, un historien de l'art, et j'ai l'impression que. Bon. Il me dit, alors ça m'étonne un peu, et je lui dis, ça, c'est important, s'il y a bien un truc à savoir, c'est que si on veut voir l'art, il faut le voir rapidement et souvent. Il ne faut pas s'abîmer des heures, donc voilà. J'y étais souvent, j'étais ce week-end, par exemple. Bon, voilà. Pas pour m'abîmer dans la contemplation, mais pour vérifier justement des affaires de rythme, parce que je pense que tout est justement dans cette ville qui est... un système compliqué de pente, de contre-pente, une bonne partie au fond de l'efficacité, j'y reviens là, politique, de cette image vient dans le dispositif qui est le dispositif architectural. Alors je vous réponds, en regardant quand même souvent cette image, en tentant de la prendre de vitesse, en tournant autour, on a des chances de voir ce qu'elle cache. Et ce qu'elle cache, c'est effectivement la puissance séductrice de la tyrannie. Vous comprenez, les seigneurs sont en train de gagner la partie. Mais les historiens, alors ça les embête quand ils sont progressistes, mais pourtant c'est la vérité, sont bien obligés de reconnaître que ceux qui installent les seigneurs, c'est-à-dire des puissances autoritaires, personnelles et dynastiques, en lieu et place des communes, même si c'est plus compliqué que ça, même s'il y a des formes hybrides, enfin bon, bref, c'est plutôt le popolo. C'est plutôt, et parmi eux, plutôt les plus humbles. Et donc, d'une certaine manière, il y a une attirance pour la seigneurie. Alors, Lorenzetti dit « tyran », mais comme aujourd'hui, on dit « fasciste ». Mais c'est-à-dire qu'il prend un vieux mot, qui est un mot aristotélicien, et il le jette à la figure des adversaires. Mais on sait bien que ça ne sert à rien de traiter les gens de fascistes. C'est intéressant, en revanche, de montrer ce qu'il y a de fasciste dans ce qu'ils disent. Et là, Lorenzetti le fait aussi. C'est-à-dire qu'il montre les forces de subversion. Et effectivement, la subversion est à l'œuvre. Et alors, au milieu, mur nord, il y a la paix. Et au fond, c'est la partie, c'est la clé de la composition. Cette paix, c'est une très belle jeune femme. Elle est magnifique. Elle est évidemment presque langoureuse, érotisée. Elle a enlevé son armure. Elle est dans une sorte de déshabillé blanc. Elle est presque lascive. Elle est étendue sur un canapé. Elle a à la fois... Elle est sainte de... des lauriers et elle a l'olivier. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la paix aristotélicienne ou thomiste, c'est-à-dire l'absence de violence, c'est la paix cicéronienne, c'est-à-dire la paix après la guerre, la paix qui vient après le triomphe, après les lauriers. Elle regarde son monde. Et effectivement, elle a de ses beaux yeux verts, verdatio, la couleur du Christ mort, s'étend la ville pacifiée, la ville en paix. C'est l'histoire d'une pacification. Et elle est comme ça. J'avais fait un premier article, justement sur le livre de Quentin Skinner, en 2005. Qui est paru, il est paru en 2005 dans les Annales, un énorme, un gros article qui avait mal tourné, 70 pages. Bon. Bien, un jour, je me disais, mais j'en ferai un livre, mais j'en ferai un livre quand j'aurai trouvé l'allure, l'écriture, quand je me serai libéré d'un certain nombre de choses, et puis quand j'aurai suffisamment changé d'avis, parce que si on n'écrit pas pour. Si on n'écrit pas contre soi-même, c'est pas la peine. Et puis, bon, une des manières aussi d'écrire contre soi-même, c'est d'en parler à des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et j'étais à Florence, dans une table ronde d'amis, enfin d'historiens italiens, qui me faisaient l'amitié de discuter mon article. Et puis, il y en avait un qui s'appelait Pierangelo Schiera, qui n'est pas historien, qui est justement un philosophe politique, qui me dit, mais tu ne vois pas qu'elle est mélancolique ? C'est la figure de la mélancolie. Ben non, je ne l'avais pas vu. Ce livre est aussi sur notre incroyable capacité à ne pas voir ce qu'on a sous le nez. C'est là, et on ne le voit pas. Mais dès lors où on l'a vu, on ne peut plus ne pas le voir. Et je ne peux plus ne pas voir que cette paix, elle est mélancolique. Et donc dès lors, effectivement, je comprends pourquoi elle me regarde ? Pourquoi ça nous regarde encore ? Pourquoi c'est intéressant ? Parce que cette paix, c'est notre après-guerre. Ça veut dire, nous avons gagné, la liberté a gagné, mais du moment même où elle a gagné, elle sait que non seulement les ennuis commencent, non seulement, comme le dit Myriam Revaud-Dallone, l'horizon de la démocratie, c'est la déception. Mais plus profondément, il y a une incertitude. Il y a un doute sur les valeurs civiques qui embrument le regard. Et il faut dire quelque chose de très simple. C'est que je fais un choix de lecture à partir du chapitre 6 au mi-temps du livre, qui est de regarder l'image en commençant par l'enfer. Enfer, purgatoire, paradis. La partie mauvaise que peu de gens regardent. Google Art Project, c'est magnifique, on peut zoomer sur... Mais ils n'ont pas mis l'enfer. Il n'y a que la partie belle, flatteuse. Voilà. Il faut soutenir le regard. Il faut voir ce que c'est qu'une ville en guerre. Il faut comprendre que quand on est historien, on sait que c'est ça la réalité. L'autre partie, la partie joyeuse, que souvent les pédagogues nous demandent prendre comme support pédagogique pour expliquer ce que c'est qu'une ville médiévale, mais ce n'est pas du tout ça une ville médiévale. C'est la partie redressée, rêvée de la réalité qu'est le Guasto. Bon. À partir du moment où on a regardé longtemps la réalité d'une ville en guerre, même lorsqu'on glisse ensuite sur le mur nord et sur le mur est, on ne peut pas faire qu'on n'ait pas vu la guerre. Et donc le regard s'en trouve embrumé. Donc oui, si je suis la ligne de regard de cette paix mélancolique, je vois ce que Bernardin de Sienne me disait de voir, je vois les femmes qui dansent, je vois les gens au travail, je vois la gravité et l'inquiétude qu'il y a dans cette scène.
On a bien compris que si la paix était mélancolique, c'est qu'elle se distinguait à la fois d'un désir d'une paix qui serait une paix de cimetière, hein, comme on pouvait le dire de la paix du Léviathan chez Hobbes, hein, ce que Spinoza disait, peut-être également mélancolique parce qu'elle ne croit plus à la paix de la cité de Dieu de Saint-Augustin, peut-être aussi ce paradis. Elle se distingue aussi de la vaine gloire qui est en face ou bien de la superbe. Et peut-être qu'elle est aussi liée à la prudence aristotélicienne quand même, qu'elle cherche un juste milieu entre la tension et peut-être la léthargie. Et que donc, il faut activer des forces positives, ce que j'appellerais avec Spinoza des passions joyeuses. Et pour cela, on fait appel à des danseurs. Donc, j'aimerais terminer cette présentation par ce groupe de danseurs. Et donc là, vous avez des analyses également très, très plastiques, hein, très fines, parce que vous remarquez que ces danseurs ne sont pas des danseurs sortis de la ville. Hein. Ce sont des danseurs professionnels. Aujourd'hui, on dirait que ce sont des intermittents du spectacle commandités par le neuf pour stimuler les passions joyeuses qui peuvent peut-être lutter contre la tristesse et donc la mélancolie.
Oui.
Alors, juste un autre mot, si vous permettez, sur ces... Parce que vous en parlez vraiment très bien, d'une manière très, très détaillée. Donc, vous évoquez les costumes, les voiles, les nymphes, avec un certain nombre de petites, peut-être, mythes qui sont sur ces,
alors,
ces habits.
Alors, si vous l'avez... dans l'œil, au milieu de la cité heureuse, c'est-à-dire affairée, cité au travail, pacifiée par un gouvernement juste, puisque c'est ça l'idée, c'est si vous voulez avoir la paix, soyez juste. Le discours s'adresse aux gouvernés, aux gouvernants. Tournez la tête pour regarder celle qui est peinte ici, vous qui régissez, vous qui gouvernez. Donc, l'avertissement, c'est pour les gouvernants. Donc, gouvernement juste, une scène de danse. Vous dites danseur. Tout le monde voit des danseuses. Il y a des robes. Bernardin de Sienne, que j'évoquais, ne nous aide pas, puisqu'il dit, au milieu de la ville, on danse. Où a-t-on vu que les jeunes filles dansaient comme ça, à la cool, dans une ville italienne ? Il y a quand même des règles, voilà. Donc on ne peut pas imaginer que c'est une sorte de manifestation spontanée de joie. Ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe, quoi. Et puis si on regarde de près, effectivement, il n'y a que dans le Da Vinci Code qu'on peut faire confiance à notre impression visuelle pour dire c'est un garçon, c'est une fille. En réalité, l'image est codée. Il y a une distribution des genres et les femmes, chez Lorenzetti, ont des attributs, des seins, une longueur de cheveux, une finesse de cheville qui manque absolument aux danseurs du cœur de l'espace civique. Donc, ces danseuses sont des danseurs. Mais des danseurs efféminés. À qui on reprochait d'être des danseurs efféminés, effectivement, à ces danseurs professionnels auxquels les gouvernants avaient recours. Et là, on a des textes lorsqu'il s'agissait de mobiliser les émotions. Il y a des discours, notamment des discours au Podesta, qui sont les magistrats étrangers qui régissaient la ville, qui disent, lorsque la cité entre en guerre, ou lorsqu'au contraire, elle sort de guerre, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle est en crise, organisez des grandes fêtes publiques, mais ce n'est pas le pain et le cirque. C'est pour, justement, conjurer la peur. Conjurer la peur, ça ne veut pas dire n'ayez plus peur. Ça veut dire organisez votre peur, sachez de quoi vous avez peur. On doit avoir peur. Mais. Et cette danse au milieu est une danse solennelle, lente, grave, qui ressemble effectivement au tripudium des Romains, c'est-à-dire ces danses que les anciens nous disaient viriles, c'est pour ça que ça ne peut être que des hommes, qui. Alors, serpentes, comme ça, font un S, le S de Sienne, c'est une ronde, mais ce n'est pas une ronde. Et c'est ce moment que, là encore, une fois qu'on a vu tout ça, on ne peut plus prendre pour un moment d'allégresse, mais pour un moment de rituel, liturgique, de construction d'une... Oui, d'orchestration des émotions collectives, qui expliquent pourquoi leurs habits sont en lambeaux. Et de fait, lorsqu'on s'approche, on voit des mythes, on voit des vers. On sait que le vers est le symbole de la tristitia. La tristitia, c'est l'acédie, c'est-à-dire, c'est, oui, cette passion triste au sens de Spinoza, qui prend d'abord les moines, mais ensuite tout le monde lorsqu'on se décourage. Et donc, ces danseurs ont l'habit du découragement, de la tristesse, et ont les gestes lents et solennels et majestueux de ceux qui veulent vaincre cette tristesse. Donc, c'est ça, c'est ce moment très suspendu et incertain qui est au cœur de la composition que regarde la paix mélancolique. Parce que ce qu'elle voit de ses beaux yeux verts, c'est ça. Et c'est évidemment, inévitablement, sur cette scène que le livre s'arrête.
Il y a encore mille détails dans ce livre, encore une fois très riche, hein, qu'on pourrait évoquer. Je vais remercier beaucoup Patrick Boucheron pour sa présentation.
Merci.